Bonsoir Jacques Généreux, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir Bernard Comte. Donc nous sommes réunis pour écouter une présentation de l'ouvrage La Grande Régression de Jacques Généreux. Alors je vous rassure tout de suite, les deux animateurs sont simplement là pour assister l'auteur. Vous êtes venus écouter l'auteur, donc on ne va pas vous refaire le livre, hein, on vous rassure tout de suite. Bon, on ne s'interdit pas de poser nous-mêmes quelques questions. Donc je voudrais d'abord, au nom de l'association Espace Marc, remercier la librairie Mola de ce partenariat hein, qui a l'air de bien marcher avec la venue d'un certain nombre d'auteurs. Je voudrais aussi peut-être dire un mot. Bon, en ce qui me concerne, je suis donc animateur au sein de cette association, mais je suis par ailleurs économiste de la relation formation-emploi, donc on ne parlera pas beaucoup peut-être de cet aspect-là, mais enfin, bon. Disons que j'ai quelques entrées personnelles sur la situation de la société. J'ai dit que je ne voulais pas parler longtemps. Quand même, il est peut-être intéressant, Jacques Généreux, de rappeler une partie de votre parcours d'auteur. Je ne vais pas vous infliger la lecture de tous les titres de ces ouvrages, parce que vous le trouverez notamment dans son dernier ouvrage. Simplement, moi, ce qui me paraît intéressant, pour avoir été moi-même un tout petit peu économiste, c'est le parcours d'un économiste universitaire qui est en même temps un esprit critique et qui est beaucoup plus, au fond, qu'un économiste. Je crois que ce livre va nous le montrer abondamment. Alors, je ne veux pas paraphraser une phrase célèbre en disant que l'économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux économistes, mais ce qui me paraît très séduisant dans cet ouvrage, comme ça avait été le cas dans vos ouvrages précédents, et notamment dans la Dix Sociétés, hein, qui, à mon sens, a marqué un tournant très, très fort dans votre production. Enfin, c'est vraiment un livre d'une immense ambition qu'on retrouve ici sous une forme peut-être plus ramassée. Peut-être, je ne sais pas si on peut dire plus accessible, je n'aime pas beaucoup les postures démagogiques sur la vie intellectuelle, mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus dans un essai, beaucoup plus ramassé, qui a un titre trompeur, mais on y reviendra, parce que ce titre n'est pas un titre sur la nostalgie d'une époque parfaite et merveilleuse, les Trente Glorieuses par exemple, avec laquelle il faudrait renouer et qu'il faudrait reconstruire. Donc je crois que c'est la seule question que je m'autoriserai pour l'instant, c'est cette entrée-là. Ce livre ne cherche pas à dire « il faut revenir à ce qu'était une situation antérieure ». Non, il faut chercher des solutions futures, mais on y reviendra ensuite. Et il y a un petit clin d'œil de la localisation et de l'histoire. Il y a une plaque qui rappelle la présence, au fond, de l'esprit de Montesquieu et de l'esprit des Lumières en ces lieux. Cet ouvrage, comme vos autres ouvrages, a le gros avantage de parler de l'ensemble des sciences sociales, de parler de l'ensemble des problèmes humains et des problèmes des sociétés, certes par une entrée au départ qui est une entrée d'économiste, ce qui est normal, mais avec une transversalité disciplinaire à laquelle l'association que nous sommes attachée à une vision extrêmement large et en tout cas nullement sectaire de la pensée de Marx et des questions qu'elle continue de nous poser, ça nous interroge aussi là-dessus, puisque je rappelle que Marx n'était pas qu'un économiste, était-il même un économiste, certains en débattent encore. En tout cas, nous sommes très attachés à l'idée d'une interrogation critique transversale de la société et de ses problèmes, et c'est pour cela que nous avons invité.
Eh bien, merci pour cette introduction, et merci donc en effet à la librairie Mola de m'accueillir pour cette rencontre, et merci surtout à vous d'avoir fait le déplacement, de me faire l'honneur en plus de remplir la salle. Je suis tout à fait content de vous voir là. Alors, je veux rassurer tout de suite mon ami Robert Piron. Il ne faut pas avoir peur de dire que je ne suis plus un économiste. En réalité, et que même ce livre, en réalité, n'a pas une entrée qui serait celle d'un économiste. J'ai bien compris ta réserve, en quelque sorte, tu ne voulais pas craindre de m'insulter en me disant que finalement... Non, mais on peut le dire carrément. J'ai en effet commencé ma carrière universitaire comme économiste, comme quelqu'un qui faisait des recherches sur l'économie du travail, du marché du travail, etc. Pendant un certain temps, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'économie du marché du travail. Et puis, au bout de quelques années, tout de même, j'ai réalisé et compris que ça ne servait à rien de consacrer sa vie à des recherches complémentaires sur le chômage, les problèmes de l'emploi, leurs solutions, etc. Parce que je me suis aperçu que ça faisait belle lurette, qu'en gros, on avait à peu près compris comment fonctionnait l'économie, donc comment fonctionnait le marché du travail, et on avait aussi à peu près compris quel était l'ensemble des politiques possibles, la panoplie totale des différentes manières d'intervenir pour régler des problèmes sociaux, comme par exemple le chômage. Et donc je suis arrivé à un moment dans ma vie d'économiste, d'abord, où je me suis dit, en fait, ce qu'il faut comprendre, en réalité, c'est pourquoi dans des sociétés riches, puissantes, organisées, qui disposent de moyens, qui disposent d'administrations pléthoriques et efficaces, disposent de la connaissance, justement, apportée par les sciences sociales, de la connaissance des faits et apportée par des données, des appareils statistiques. Si vous voulez savoir quelque chose aujourd'hui sur la condition des gens qui travaillent, différentes catégories, enfin, nous sommes dans des pays, je parle ici des pays riches, hein, industrialisés, avancés, nous croulons sous les données, sous les informations. Donc on ne peut pas dire qu'on ne règle pas les problèmes parce qu'on ne sait pas, qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc je me suis dit, la grande question, c'est de réfléchir à la question de savoir pourquoi justement nous sommes confrontés à ce que j'appellerais ce paradoxe de la puissance impotente. Nous sommes dans des pays puissants, riches, qui connaissons, qui avons des outils, des instruments et même des gens pour s'occuper du règlement des problèmes, et nous ne les réglons pas. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en mesure de laisser s'installer, comme on l'a fait depuis les années 80, des fléaux comme l'exclusion, la grande pauvreté, un chômage, je dirais, lancinant et permanent, notamment de longue durée, des problèmes de logement hallucinants. Comprenez bien que nous ne sommes pas ici dans un petit pays du Sahel accablé par tous les fléaux de la terre, en plus de la pauvreté. Nous sommes, pour les grands pays industrialisés modernes, nous sommes des pays qui dégoulinons de richesses, de moyens. Et donc le grand mystère, il est là. Donc, je me suis dit, dans un premier temps, il faut s'interroger sur le dysfonctionnement du politique qui fait que, alors qu'on connaît les moyens de régler un certain nombre de fléaux, on ne le fait pas. Ça vient donc, dans des sociétés par ailleurs démocratiques où par le vote, on peut changer d'orientation des politiques tous les 4 ou 5 ans si on le veut. Il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas davantage de résistance et de possibilité de réorientation des politiques vers une transformation, disons, sociale qui est nécessaire. Donc, dans un second temps, après avoir été un économiste du travail, je me suis intéressé plutôt à l'analyse, on pourrait dire, là on était déjà à mi-chemin entre la science économie et la science politique, à l'analyse du fonctionnement du politique et de la démocratie. Bien. Et puis, au travers de cette recherche-là, je suis tombé assez vite, enfin, ça a pris quand même un certain temps, sur un autre constat, c'est qu'il ne suffisait pas de comprendre les dysfonctionnements de la démocratie, en gros le fait que nous soyons dans des marchés au bulletin de vote où le marketing politique l'a emporté sur la vraie politique, soit, peu importe, le fait que les hommes politiques et les partis politiques se soient transformés en entreprises qui vont à la pêche aux voix comme on va à la pêche aux sardines. Cette marchandisation, en quelque sorte, hein, du politique sur un marché politique est une évidence. Alors on peut imaginer, j'avais commencé à travailler dans ce sens-là, on peut imaginer évidemment moult moyens de réorganiser, de repenser les institutions de manière à ce que les incitations soient meilleures, de manière à renouveler le personnel politique, de manière à donner plus de pouvoir aux citoyens, etc., etc., etc. Bon. Mais je me suis aperçu aussi qu'il y a un moment où, certes, c'est une part de la... du travail nécessaire. Là encore, ça ne suffit pas, car il faut être devant cette évidence aussi que peut-être quelque part, il y a une forme de résignation ou de servitude volontaire dans les grands pays riches, des citoyens, et qu'il ne va peut-être pas suffire de transformer simplement les institutions. Il faut comprendre, parce qu'encore une fois, vous dites, c'est bien beau de dire on va transformer les institutions, mais pourquoi finalement les citoyens ne le réclament-ils pas davantage? Pourquoi ne résistent-ils pas davantage? Bon. Autrement dit, quelle est la conjonction des forces sociales, globales, qui font qu'il y a cette espèce d'auto-résignation des sociétés modernes puissantes à ne pas se transformer, se réformer pour se remettre en état et en moyen, en possibilité de faire les transformations sociales qui sont nécessaires. Bien. Et donc, à partir de ce moment-là, dans une recherche qui était au départ centrée sur une refonte de la démocratie et de nos institutions, je suis venu à me poser des questions énorme et considérable, parce que j'ai compris que finalement on ne pouvait pas s'intéresser de très près à cette question sans s'interroger fondamentalement et d'abord plus généralement sur ce que sont les êtres humains, sur la façon dont ils fonctionnent et sur la façon dont ils fonctionnent en société. C'est-à-dire que pour comprendre, par exemple, au départ, une forme de soumission volontaire, je me suis dit, il faut comprendre exactement comment nous fonctionnons. De même, pour définir la bonne société ou une société de progrès par rapport à la régression, il faut d'abord avoir une idée sérieuse de ce que c'est qu'une bonne société. Donc une bonne société, c'est une société qui serait bonne pour les êtres humains. Mais une société pour les bonnes pour les êtres humains, c'est quoi? Ça suppose, si on ne veut pas juste rester dans l'opinion, dans la conversation de bistrot, ça suppose d'avoir une idée assez solide et fondée de ce que c'est un être humain. Qu'est-ce que c'est une vie humaine, une bonne vie humaine. Et donc, à partir de là, en effet, j'ai cessé d'être un économiste, parce que je me suis aperçu qu'en fait, quand on voulait aborder sérieusement n'importe lequel des grands problèmes sociaux de notre temps, en fait, il fallait mobiliser la totalité des savoirs venant de toutes les disciplines sur ce que sont les êtres humains et les sociétés humaines. Et donc, je me suis lancé dans un grand travail qui a commencé il y a maintenant une dizaine d'années au moins. Pour situer le cadre, après je vais vous parler très directement de la grande régression, mais pour situer le cadre en fait de mon travail d'auteur, dans lequel j'ai réalisé ceci, qui était qu'en fait il fallait refonder le discours politique et le discours économique justement sur une anthropologie générale, c'est-à-dire sur une connaissance générale que nous apporte aujourd'hui sur ce que sont les êtres humains, des tas de disciplines comme la paléoanthropologie, l'éthologie humaine, on pense à Boris Cyrulnik par exemple pour l'éthologie, la neurobiologie pour le fonctionnement du cerveau, les découvertes de l'ethnologie, de l'archéologie, de la sociologie sur le fonctionnement des sociétés, sur l'origine des sociétés humaines, sur la façon dont les hommes ont fait société dans l'histoire, de la psychologie, etc., etc. Et donc, en fait, mon travail, et celui-ci, finalement, le troisième opus, est un travail de refondation anthropologique du discours politique et économique, c'est-à-dire de refondation de ce discours sur une science, entre guillemets, de l'homme. Anthropologie, c'est ça, mais générale, qui mobilise tous les savoirs, c'est-à-dire à la fois des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la nature, hein, les sciences physiques, la science du cerveau, que les découvertes récentes. Alors, c'est important de le faire parce que, figurez-vous, que l'essentiel, en fait, des courants de pensée politique et économique ont été fondés au XVIIIe et XIXe siècle. Je parle des courants contemporains, de ce qui anime encore notre culture moderne, notre façon de penser, ont été fondés par des gens brillants qui ont eu beaucoup de grandes intuitions, économistes, philosophes, historiens, etc., et sociologues plutôt à la fin du 19e siècle, mais par des gens qui écrivaient et qui pensaient à une époque où on ne savait rien sur l'être humain, en réalité. Car il faut bien comprendre que ça fait seulement une cinquantaine d'années qu'on commence à avoir quelques idées et quelques informations sur l'origine de l'espèce humaine, sur l'évolution de l'espèce humaine. Ça fait que quelques dizaines d'années qu'on commence à avoir quelques lumières sur le fonctionnement du cerveau humain, donc sur le fonctionnement intime et réel d'un être humain. Ça fait que quelques décennies, en fait, que les progrès de l'archéologie nous ont permis de savoir réellement, en fait, comment se sont constituées les premières grandes sociétés humaines et comment elles ont évolué, etc. Bref, en tout cas, c'est au XXe siècle qu'on a commencé d'accumuler des vraies connaissances sur ce que sont les êtres humains, sur la façon dont ils fonctionnent, sur la façon dont ils font société. Et donc, curieusement, pendant tout ce XXe siècle, en fait, les sciences sociales, politiques, économiques ne se sont pas préoccupées de la nature humaine. Se sont pas préoccupés de savoir si le discours qu'elle tenait sur l'économique, sur le politique, sur la société était fondé scientifiquement sur une conception juste de l'être humain. Voilà. Et donc mon travail, c'est ça. Alors ça a donné lieu à un premier livre dont je ne vous parle pas maintenant, en 2006, qui s'appelle « La dissociété », qui a été évoqué, qui décrivait en quelque sorte la mauvaise. Ce que j'appelle la dissociété, c'est en partie la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, enfin les sociétés modernes avancées, c'est-à-dire la société qui dissocie les individus, les uns des autres, qui rompt le lien social, qui sépare des individus, qui sépare des communautés, qui les met en rivalité et en opposition. Donc c'est la société éclatée, hein, qui détruit le lien social, avec une très très forte montée de l'individualisme, ou de la dissociation, je dirais, communautarisée, hein, entre communautés rivales. Donc la mauvaise société, entre guillemets, hein, mauvaise, c'est schématique et caricatural. Et ce premier livre, surtout, faisait finalement l'enquête philosophique. Et il visait à montrer, en fait, comment, et c'est une des premières réponses à ma question, pourquoi nous nous soumettons à une société inhumaine, à un modèle économique, social, etc., qui manifestement ne fonctionne pas. Et une des raisons, entre autres, une des raisons que j'ai découvertes, entre guillemets, est que ce qui fait notre culture moderne, c'est-à-dire ce dans quoi nous baignons depuis que nous sommes tout petits dans les sociétés modernes avancées, repose en fait sur une conception erronée de l'être humain, qui est la conception moderne. L'être humain comme individu autonome, qui est défini, qui doit définir sa propre règle, qui est indépendant des autres, qui a un idéal d'indépendance vis-à-vis d'autrui, etc. Bon, et qui ensuite fait société, hein, par contrat. Il s'agit d'avoir des contrats, le contrat social, des individus qui se passent un contrat pour constituer une société, etc. Bon, une conception moderne qui est dans notre culture. Et j'ai montré à travers une enquête philosophique, donc qui reprenait depuis les prémices de la philosophie moderne et de la philosophie politique moderne, comment en fait les modernes, dans leur souci d'émancipation, qui était parfaitement légitime, de l'être humain, ont tellement insisté sur l'individu, sur le sujet autonome de Descartes, etc., qu'ils ont oublié la société. C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'en réalité, aucun être humain ne se construit autrement que dans la communication et la relation à autrui. Qui ont oublié que la liberté d'un être humain ne peut pas se construire par l'indépendance vis-à-vis d'autrui, mais se construit toujours par des liens sociaux, etc., etc. Donc ce premier livre montrait que si nous avons finalement une telle propension à nous laisser séduire depuis quelques décennies par la société, justement, de l'individualisme, par le culte, de la responsabilité individuelle, de l'autonomie, etc., mais c'est qu'il y a en nous ce fond culturel, quelles que soient par ailleurs nos opinions politiques et nos courants, qui fait que ces idées-là nous paraissent normal. Autrement dit, quand vous avez un grand courant libéral qui s'est envahi le monde depuis une trentaine d'années et qui ne jurait plus que par l'initiative individuelle, l'initiative privée, la responsabilisation des individus, etc., quelque part, ça nous parle intuitivement, parce qu'il y a une espèce d'idéal en nous, hein, culturel, qui est celui de cet individu. Voilà. Bon. Bon, c'était un des éléments. Voilà. Donc, surtout, une enquête philosophique montrait, le problème, c'est qu'il y a un fondement anthropologique erroné qui a amené toute la culture moderne à concevoir la société sur une base anthropologique fausse. Bon, à savoir que nous ne sommes pas des individus autonomes. Personne n'est un individu autonome. L'autonomie peut être un projet. On peut avoir le projet que les individus soient de plus en plus libres, de plus en plus capables de décider et de penser par eux-mêmes, etc. Donc, comme projet politique, ça a un sens. Comme réalité humaine, c'est quelque chose qui est totalement inaccessible à qui que ce soit, pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres sociaux. Notre cerveau lui-même, qui n'est pas complètement façonné et très peu en réalité façonné à notre naissance, c'est la raison pour laquelle, à la différence du poulain qui, lorsqu'il tombe du ventre de la jument, se dresse sur ses pattes tout de suite, parce que son cerveau est fini, comme vous le savez, pour les êtres humains, ça n'est pas le cas, ça prend du temps. Parce que le cerveau est à peine commencé, en réalité, dans toutes ses connexions, et l'essentiel des connexions synaptiques qui vont permettre de mettre en place toutes les fonctions et toutes les fonctionnalités, se fait extra, en développement extra-utérin, Et donc, par la communication, la relation, l'éducation, etc. Et le petit homme ne peut pas simplement se mettre à marcher, il ne peut pas se redresser et se mettre debout, ça n'a rien d'un instinct physique naturel. Il ne pourra le faire que grâce à la communication, notamment avec la mère, mais ou avec quelqu'un d'autre. Et on sait que c'est un enfant abandonné ou qui n'est pas en relation, ne se met pas debout. Il reste à quatre pattes. On a des expériences d'enfants sauvages. Des choses aussi physiques, des caractéristiques aussi fondamentales que la position debout pour l'être humain, c'est une position sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit par la communication et le lien avec autrui. Bien. Et donc, toute notre histoire fait que nous sommes construits dans la relation, dans le lien social. De même, notre liberté, nous la construisons non pas en détruisant des liens, non pas en nous détachant, non pas en étant de plus en plus indépendants des autres. Ça, c'est une illusion moderne du sujet indépendant comme condition de sa liberté. Un sujet indépendant, c'est-à-dire qui ne dépend de personne, est juste un sujet mort en général, ou en tout cas un individu abandonné, abandonné au désert de l'autonomie, angoissé, dépressif et parfois violent. Donc notre liberté réelle, nous le savons bien, elle se construit en fait par des liens. Le petit enfant se libère de ce qu'il pourrait y avoir d'étouffant dans la relation d'attachement avec sa mère. Il se libère comment ? Non pas en se détachant, car on sait très bien qu'un enfant qui n'a pas eu un attachement sécurisant avec sa mère sera incapable d'accéder à une réelle autonomie. Mais l'attachement sécurisant avec la mère est justement la base de sécurité qui lui permet d'avoir le désir et l'envie et la capacité d'aller explorer le monde, d'entrer dans d'autres relations. Et donc il se libère d'un étouffement éventuel grâce au lien qu'il noue avec le père, avec ses frères et sœurs. Il se libère de la famille grâce au lien qu'il noue avec les copains. Et nous tous dans notre vie, nous ne faisons que ça au fur et à mesure que nous grandissons. Notre liberté vient de quoi ? Elle vient pas de ce que nous sommes indépendants des autres. Elle vient de ce que nous sommes en relation et donc dépendants de suffisamment de personnes et de suffisamment de cercles sociaux divers et différenciés pour qu'aucun ne puisse nous étouffer. Et nous le savons tous très bien, dans n'importe quelle relation amoureuse, amicale ou simplement de voisinage, etc., nous avons en nous les deux pulsions. La pulsion grégaire, où on adore faire des choses avec les gens, être ensemble, etc. Bon, voilà, ça c'est le désir d'être avec, voilà, de penser la même chose, de faire ensemble des choses, etc. Et dans le même temps, nous avons aussi l'autre pulsion, l'autre aspiration à l'épanouissement de soi, la singularité, l'affirmation de sa propre personne. Mais elles vont ensemble, elles sont indissociables. Et donc comment nous faisons pour construire cette liberté-là ? Ben, nous le faisons en articulant des cercles sociaux différents. Si bien qu'à la fois, nous pouvons jouir du bonheur d'être avec son ami, avec son amoureux, son amoureuse, avec sa famille. Bon. Mais en même temps, nous n'étouffons pas là-dedans parce que, heureusement, nous avons d'autres relations. Nous pouvons nous échapper pour aller faire la même chose, finalement, être à nouveau avec des semblables, mais d'autres. Semblable. Donc cette liberté se construit en fait en articulant des liens sociaux suffisamment nombreux, diversifiés, etc. Bien. Alors sur cette base-là, une fois qu'on a compris l'essentiel de fonctionnement-là des êtres humains, on peut définir justement ce qu'est une société vraiment humaine et donc une société de progrès. Et donc, par opposition, ce qu'est ce que j'appelle la régression, une société de régression. Une société de progrès, c'est celle qui permet et qui crée un cadre social dans lequel on tend vers une égale capacité des individus à concilier justement leur aspiration à être eux-mêmes, à l'indépendance, à la singularité, et leur aspiration à être avec, en cohésion, en union, en coopération, en solidarité avec les autres. Une égale capacité à concilier ces deux moteurs de notre existence. C'est-à-dire qu'ils ne privilégient ni l'une ni l'autre, qui ne cherche ni à mutiler l'une au profit de l'autre. Alors là, on est dans un fonctionnement humain. Vous avez des modèles, des types de sociétés, justement, qui essaient de privilégier et qui s'appuient et qui hypertrophient l'une de ces aspirations. Alors, par exemple, vous avez, c'est ce que j'appelle l'hypersociété. Vous avez des modèles de société, des époques historiques où on hypertrophie le côté social, l'entousement, le collectif, au détriment de la singularité, en mutilant même l'aspiration à la singularité, à la liberté individuelle, à l'épanouissement de soi. Et donc, à l'extrême de ce pôle-là, vous avez le pôle totalitaire. Société qui veut fondre tout le monde dans une même loi, dans un même État, et qui nie la, toute singularité et toute liberté individuelle. Bon, ça, c'est une hypersociété qui est une mutilation de l'aspiration à l'être soi, à la liberté et à la singularité. Mais à l'opposé, et nous sommes plutôt justement dans ce penchant-là, ce que j'appelle la dissociété, ce sont des sociétés qui mutilent notre aspiration à la coopération, à l'empathie, à la sympathie, à la solidarité, à la coopération, etc., au lien social, à cette nécessité que nous avons pour être bien, d'être bien, de vivre bien avec les autres. Et donc qui méprisent, qui mutilent cette aspiration-là au profit du culte de soi, le culte de l'autonomie, le culte de la responsabilité personnelle, personnel, individuel, le culte de l'individu roi, de l'initiative au détriment de la dimension collective de notre être. Bon, alors ben, entre ces deux penchants qui sont, je dirais, inhumains, entre ces sociétés justement qui nous mutilent, la société de progrès, c'est celle qui essaie au contraire de concilier le cadre et donc qui construit notre liberté et notre relative autonomie par des liens sociaux. Il y a des liens qui aliènent, hein, il y a des liens qui étouffent. Donc, par exemple, un État omniprésent qui voudrait décider tout à la place des citoyens et tout faire, etc. Et c'est étouffant et c'est impossible. Donc, ça devient un État aliénant. Mais inversement, vous pouvez avoir des liens sociaux qui libèrent. Hein. Bon, par exemple, la sécurité sociale, si vous voulez. Le fait qu'une communauté humaine se donne un outil qui assure à chacun une base de sécurité minimale, eh bien, voilà une forme de lien qui libère. Parce que cette base de sécurité... Eh bien, elle crée d'abord le lien nécessaire à la cohésion sociale, mais elle crée de la base de sécurité à partir de laquelle, justement, il peut y avoir de la prise de risque, de l'initiative, etc. Et ceux qui sont ici dans les entreprises, dans le travail, ils savent très bien qu'à trop insécuriser, par exemple, les salariés, à trop leur dire « démerdez-vous, les choses dépendent que de vous », etc., c'est pas comme ça, en réalité, que vous allez stimuler l'initiative, la prise de risque, l'autonomie. En réalité, vous la détruisez, parce que vous placez les individus dans une situation de désolation, d'isolement et d'angoisse et de stress qui ne permet pas, justement, cette initiative. Alors qu'au contraire, eh bien, le fait de créer un climat de sécurité va permettre le développement de l'initiative. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, société de progrès, c'est celle qui cherche cette conciliation des deux. Alors, pourquoi je dis que, depuis une trentaine d'années, eh bien, au lieu d'aller vers cette société de progrès humain, comme on avait commencé de le faire, je dis bien commencé, tu as raison de souligner que je n'ai pas la nostalgie d'un temps ancien, comme on avait commencé de le faire après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? Il s'est passé que la génération... de mes parents et surtout de mes grands-parents, la génération de Stéphane Hessel, qui vient de publier son exhortation aux jeunes à s'indigner contre les injustices d'aujourd'hui. Cette génération-là, elle avait vu ce qu'il advenait d'une société justement qui allait vers la dissociété. C'est-à-dire la société capitaliste du 19e siècle et du début du 20e siècle qui a détruit la société traditionnelle, qui certes avait bien des aspects aliénants, mais qui, en détruisant cette société traditionnelle, ne l'a pas remplacée par une société de progrès et de liberté, l'a remplacée par une société de rivalité, de pouvoir de l'argent, de pouvoir des marchés, d'aliénation et d'injustice sociale, qui a abouti au grand chaos, d'abord à la guerre mondiale, parce que dès que vous avez des sociétés qui ne sont plus liées, eh bien, comment elles restent ensemble? Par le nationalisme, et donc par la rivalité des nations. Et donc, il y a eu un premier effondrement dans la Première Guerre mondiale. Il y a eu l'effondrement du capitalisme dans la Grande Dépression des années 30. Le résultat de ce chaos social, ça a été la montée du fascisme et du nazisme et finalement l'effondrement de la civilisation européenne. Alors ça a été tellement dramatique, si vous voulez, qu'on a là une génération qui a vu ce que c'était que d'aller dans le sens d'une société déliée qui s'abandonne au pouvoir du fric, du capital. Bon. Et en même temps, qui a été vacciné contre l'antithèse absolue qui serait ce que Pierre Leroux appelait le socialisme absolu, qui serait, d'un autre côté, au nom de la reconstruction du lien social, une société étouffant l'individu, détruisant l'individu, comme on l'avait vu dans le totalitarisme, et comme, malheureusement, elle se développait avec le stalinisme dans le bloc soviétique. Et donc, la même génération qui, là, commençait de comprendre, non, on veut ni de cette dissociété du fric, de la rivalité, de la soi-disant libre compétition qui n'est que la loi du plus fort et qui détruit la société, mais on ne veut pas non plus l'autre société qui, sous prétexte de solidarité et de coopération, met tout le monde ensemble au même niveau et détruit la singularité. Non, on veut faire le grand compromis entre le socialisme et le capitalisme, entre le libéralisme, etc. Et commencer finalement de chercher cette voie qui concilie cette aspiration à l'être avec et à l'être ensemble. Ça avait commencé. Bon, malheureusement, alors ça avait commencé, il y avait bien des défauts à dans cette période-là, et le livre les rappelle, etc. Mais à la charnière des années 70-80, il se produit une révolution politique. J'explique pourquoi en détail, la transformation des rapports de force qui ont fait que ça a été possible. Bon. Mais toujours est-il qu'il y a une révolution politique qui s'est traduite par l'arrivée au pouvoir dans les grands pays industrialisés d'une nouvelle élite assez réactionnaire, c'est-à-dire qui voulait en fait abolir ces compromis qui avaient été passés par la génération précédente. Et donc, on est entré dans une phase où l'arrivée de Reagan aux États-Unis, au pouvoir de Thatcher en Grande-Bretagne, et puis après de gouvernements un peu de la même inspiration dans beaucoup de pays européens, on a connu à ce moment-là une situation où, au rebours de tout ce qui avait été fait dans la période précédente, mais surtout au rebours de tout ce qui avait été fait dans l'histoire de l'humanité. Alors, mon livre remonte jusqu'au néolithique, pour situer les choses quand même, dans l'évolution des sociétés humaines, a résolu de donner les pleins pouvoirs à l'argent. Comment ? Dans des sociétés qui n'étaient pas disposées à ça, où les conventions morales condamner cette idée, et on avait des sociétés qui s'étaient habituées justement à un autre type de fonctionnement. Comment ils ont fait ça ? Ils ont fait ça par la mise en compétition intensive, permanente de tous les territoires. Ce qu'on a appelé la mondialisation, la globalisation, que tu as un mot d'ailleurs un peu idiot, mais sur le fond, car il n'y a pas de globalisation, si ce n'est de la finance, en réalité. Il n'y a pas de globalisation de la culture, par exemple, il n'y a pas de globalisation ni même des systèmes sociaux qui restent différents, même le fonctionnement des entreprises, des régimes sociaux reste encore très différent après 30 ans de mondialisation, mais peu importe. Mais une des raisons pour lesquelles ce terme de globalisation a tellement été employé, ou de mondialisation en France, c'était précisément pour effacer symboliquement dans nos têtes l'idée qu'il y avait encore des pays. C'est-à-dire pour effacer symboliquement l'idée qu'il y avait des frontières, que nous avions un pays. Car quand on a un pays, et quand on est encore une communauté politique de gens qui avons un pays et qui sommes censés décider dans ce pays ce que nous faisons et la façon dont nous voulons vivre ensemble, on peut résister. Vous avez encore dans votre tête l'idée que vous pouvez résister. Or, en détruisant cela et en mettant en compétition mondiale tous les territoires par la libre circulation du capital et par le libre-échange étendu progressivement à tous les biens, à tous les services, puis à l'agriculture et puis à tout, la mise en compétition des territoires a été utilisée pour briser toutes les résistances. C'est-à-dire les résistances qui autrefois existaient face au capitalisme et qui avaient fait justement que le capitalisme avait dû s'adapter. Que le capitalisme, au lieu de devenir l'horreur sauvage qu'il avait risqué de devenir, avait dû s'adapter. Parce qu'il y avait des résistances morales de la société, parce qu'il y avait des résistances politiques, des résistances des territoires. Je disais, non, les gens qui administraient des collectivités, des territoires, non, il n'y a pas que le profit qui compte. Et des résistances sociales, des travailleurs qui étaient en capacité de résister. Oui, mais à partir du moment où la survie de votre entreprise, elle dépend d'un marché mondial auquel vous vous êtes ouvert totalement. À partir du moment où le pouvoir financier appartient à des gestionnaires de capitaux qui peuvent être partout dans le monde et à qui vous avez donné le pouvoir grâce à la libre circulation des capitaux et dire eh bien, écoutez, ici maintenant, vous faites comme on vous demande, comme on veut, quelles que soient les conséquences pour vous, sinon on s'en va, on délocalise, on va ailleurs. Et donc là, les résistances ont été abolies. Et donc cette abolition de la capacité de résistance des territoires fait que toutes les résistances, peu à peu, disparaissent. Même les résistances morales, comprenez bien, je ne sais pas, il y a peut-être des entrepreneurs dans la salle. Un chef d'entreprise peut très bien, lui, considérer que l'intensification du travail, par exemple, de ses salariés, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il souhaiterait. La pression permanente pour la compétitivité, il se rend bien compte qu'on met les gens sous stress, etc. Il peut très bien se dire, non, c'est pas l'idée que je me fais de ce que c'est vraiment un travail humain, etc. Le problème, c'est que le type... S'il se plie pas à l'exigence, à la norme de productivité, d'efficacité qui est imposée par le marché, il met la clé sous la porte. Et donc, vous pouvez avoir toute la morale que vous voulez, mais elle ne sert à rien si vous êtes plongé dans la guerre et dans un climat de guerre économique. On sait bien, à la guerre, tout le monde sait que tuer, c'est pas bien, mais à la guerre, on a le droit de tuer. Et donc, on a placé... le monde en situation de guerre économique pour briser justement toutes les résistances. Alors à partir de là, eh bien c'est enclenché en effet ce que j'appelle la grande régression. Et la régression, elle n'est pas que économique. C'est une régression économique, c'est une régression sociale, c'est une régression écologique, c'est une régression morale, c'est une régression politique. C'est une grande transformation à l'envers. Pour reprendre le terme de Polanyi, que je n'ai pas le temps évidemment ici, parce qu'il faut laisser du temps à notre discussion, de décrire dans son ensemble. Mais comprenez bien le sens, l'essence de la mécanique. Et ce que j'entends par grande régression, et pourquoi je l'appelle grande régression. D'abord, je l'appelle grande régression, vous le verrez sur le livre, vous l'avez peut-être vu si vous l'avez aperçu, avec deux majuscules, hein, à grande et à régression. C'est-à-dire que c'est un nom propre. C'est le nom que je donne à un moment de notre histoire, à une période historique que je désigne. Voilà, comme les Trente Glorieuses, par exemple, avaient été désignées par Fourastier pour décrire cette période de croissance assez exceptionnelle par rapport aux normes historiques que nous avions connues avant. Donc c'est un moment, et c'est un moment très particulier qui mérite justement un nom propre. Et donc ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait ce moment-là, que nous connaissons depuis 30 ans, est l'ultime phase et la dernière phase de la modernité, c'est-à-dire du grand mouvement qui a commencé au XVIIe siècle pour ses prémices, un peu avant d'ailleurs dans la philosophie politique, qui s'est déployé surtout avec les Lumières au XVIIIe siècle et puis après dans la société moderne industrielle au XIXe siècle. C'est l'achèvement en fait du grand mouvement de la modernité qui a permis l'affirmation de l'individu, de la liberté individuelle, de cette poussée individualiste, et donc qui a achevé en quelque sorte la destruction des sociétés traditionnelles. Bon, c'est ce qui clôt cette période. Malheureusement, ça la clôt d'une manière qui est dramatique, qui est qu'au lieu de poursuivre dans la voie qui avait été initiée par mes grands-parents, de celle de cette société du progrès humain qui cherche à concilier, à progresser, au lieu d'aller encore plus dans ce sens-là, on s'est mis en marche arrière, surtout. Et on s'est mis en marche arrière par ce mécanisme-là, par ce virus de la guerre et de la rivalité entre les hommes, ce virus de la concurrence, voilà, de la libre concurrence, comprenons bien, qui a été institué à des fins bien particulières, à des fins de pouvoir, car cette libre compétition est ce qui, en détruisant les résistances à ceux qui détiennent l'argent, donne les pleins pouvoirs à ceux qui ont l'argent. Alors, donc, voilà ce qu'est la grande régression. C'est une période bien particulière. Mais si elle est grande aussi, cette régression, c'est parce qu'elle est générale. C'est-à-dire que non seulement, et ça, malheureusement, on l'a sous les yeux, alors, depuis deux ans, depuis 2008, mais on le savait déjà avant, non seulement c'est une régression qui détruit le système économique. C'est-à-dire que même, indépendamment là encore des préférences politiques, même si on avait comme idéal, par exemple, une société capitaliste efficace, une économie de marché efficace, qui produise toujours plus, etc. Bon, après tout, c'est pas mon idéal, mais pourquoi pas. Mais même de ce strict point de vue-là, la logique dans laquelle on est engagé est une logique qui détruit cela même. Hein, c'est-à-dire cette logique de tout pouvoir à l'argent, aux gestionnaires de capitaux, détruit les entreprises. Détruit les entrepreneurs, en même temps qu'elle détruit aussi les travailleurs et la santé des travailleurs. Mais elle détruit le système économique. Et ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que tous les 5-6 ans, vous avez des grandes crises, des grands cracks, etc. Et à chaque fois, on dit « Ah oui, il n'y a pas assez de transparence, pas assez de régulation, etc. » Mais on ne fait rien. Et à chaque fois, on dit « Ah oui, il y a des voyous, il y a des méchants capitalistes qui exploitent le système. » Rien du tout. C'est la règle du jeu. Si vous ne changez pas cette règle du jeu qui fait que celui qui a l'argent peut aller où il veut, quand il veut, faire ce qu'il veut, et donc à tous les pouvoirs, eh bien, vous laissez en place le système qui fait que régulièrement, eh bien, ils font n'importe quoi, et que vous avez des bulles spéculatives qui se forment ici ou là, et donc des grandes catastrophes financières, immobilières, etc., qui mettent à bas le système. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On sauve le système, on sauve les spéculateurs, on sauve ceux qui ont déclenché la crise, et on ne change rien au système. Donc, une régression économique, parce que alors qu'on avait commencé d'inventer un système qui, en conciliant de l'initiative de la liberté individuelle et de la régulation et de l'encadrement, bah, a finalement fonctionné. Hein. C'est quand même la période de prospérité la plus inouïe qu'on ait eue dans l'histoire de l'humanité. Et bon, on a cassé ça, on a détruit ça, on dit non, au nom de la loi du marché, on dit on va laisser faire les marchés, laisser faire l'initiative. Et le résultat, c'est quoi ? Eh bien, c'est que vous avez deux fois moins de croissance, trois fois moins de croissance que dans un système différent, et qu'en plus, c'est un système qui s'auto détruit régulièrement. Donc une grande régression économique évidente, mais pas seulement. Régression écologique aussi, juste en un mot, parce qu'il se trouve qu'on avait commencé de prendre conscience à la fin des Trente Glorieuses, seulement de prendre conscience, mais c'était déjà ça dans les années 70, de la pollution, des menaces d'épuisement des ressources, donc des problèmes que posait justement un système productiviste qui épuisait les ressources, qui détruisait l'environnement. Et malheureusement, c'est au moment où commençait cette prise de conscience qu'il fallait réorienter notre façon de concevoir la société et la production, qu'on a mis en place une société dans laquelle la seule exigence de rentabilité financière allait gouverner l'ensemble du développement du système économique. Et résultat, on a pris 30 ans de retard dans ce qui aurait été nécessaire pour la préservation de la biodiversité, pour développer d'autres formes d'énergie, pour sortir de ce consumérisme hallucinant et ce gaspillage permanent de choses, de biens, alors que justement l'anthropologie nous apprend que nous avons surtout besoin de liens en tant qu'être humain, et que quand on est sur son lit de mort à la fin de sa vie, ce dont on se souvient et qui fait qu'éventuellement on pense qu'on a mené une belle vie, c'est toujours les gens qu'on a aimés, la qualité des liens qu'on a eus sur cette terre avec les autres humains, et certainement pas la masse des biens que nous avons consommés et le nombre de téléviseurs que nous avons changés, le nombre de grippins que nous avons rachetés parce qu'il n'y avait plus la bonne couleur qu'il fallait, etc. Bon. Donc, on a pris là 30 ans de retard. Mais cette régression écologique prend une tournure de nos jours bien plus dramatique. Pour bien comprendre ce que j'entends par régression, ce n'est pas juste un recul, c'est vraiment une mécanique perverse. De même que, alors qu'autrefois le capitalisme était dans une logique où il était obligé de s'adapter à des résistances, si bien que finalement, à terme, il aurait disparu. C'est-à-dire qu'on serait sorti d'un système à proprement parler capitaliste. Le pouvoir n'aurait plus été à ceux qui détiennent le capital, mais il aurait été partagé entre les acteurs, entre les entrepreneurs, les travailleurs, les investisseurs, etc., comme il serait tout simplement normal et sensé. Bon. Mais en matière écologique, eh bien, on voit le même phénomène, c'est-à-dire que de même que c'est désormais l'argent qui gouverne tout le système productif et donc qui détruit les entrepreneurs, les travailleurs, etc., en écologie, le même phénomène est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on voit se développer, maintenant que le capitalisme essaie de récupérer l'écologie à travers le capitalisme vert, la croissance verte, etc., et on voit apparaître une nouvelle forme d'écologie qui serait compatible avec le capitalisme, en quelque sorte, mais qui cherche finalement une forme de capitalisme durable. Et comprenez bien qu'en réalité, ce qui est en train de se passer à travers cette conception-là de l'écologie, c'est qu'en fait, on est en train d'adapter l'écologie aux exigences du capitalisme. C'est-à-dire qu'on est en train... Ils se disent, bon, d'accord, c'est vrai, il faut préserver un peu les ressources, la planète, parce que si la planète est détruite, il ne pourra plus y avoir de capitalisme. Hein. Donc, mais c'est pensé de manière... Oui, on veut bien penser de l'écologie, mais à condition que ce soit une écologie qui permette de sauver le capitalisme. C'est ça qui est en train de se passer. Or, comprenez bien que, d'une part, hein, c'est pas possible, mais que, deuxièmement, même si c'était possible, imagine un capitalisme qui soit compatible avec la préservation de la planète. Le problème, c'est qu'un capitalisme durable, ça voudrait dire aussi tout le reste qui va avec. C'est-à-dire l'inégalité durable, l'injustice durable, le stress durable des travailleurs, etc. Bon. Donc, régression économique, régression écologique. Régression sociale, elle est évidente. J'ai pas besoin de la détailler. Mais aussi régression politique et régression morale. Régression politique parce que quand une société s'enfonce justement dans la rivalité, dans la compétition, dans la guerre économique, ça vous fait quoi ? Et quand vous n'avez plus d'espace où vous pouvez croire finalement à la solidarité, que, non seulement humaine en général, mais surtout au fait que vous vivez dans une communauté politique de gens qui vivent ensemble dans une société, qui ont encore du pouvoir, donc pour prendre des décisions, pour choisir la manière dont ils vivent ensemble, etc. Parce que désormais, même vos systèmes fiscaux et sociaux, ils sont en partie déterminés par des contraintes de compétition internationale. Et donc, il y a un moment où les électeurs se disent à quoi ça sert de voter, puisque de toute façon ceux qui détiennent le pouvoir entre guillemets nous disent mais qu'ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés de s'adapter à la compétition, aux exigences de compétitivité. Donc ils nous disent on est obligé de baisser tel type d'impôts ou tel type de droits sociaux, c'est pas qu'en soi c'est bien, mais on peut pas faire autrement, hein. Il n'y a pas d'autre politique, on nous dit on peut pas faire autrement parce que sinon on n'est plus compétitif. Et donc comprenez bien encore le raisonnement, vous voyez, la régression dans le raisonnement, dire il s'agit d'adapter la société aux exigences de compétitivité. Mais dans quel dieu existe qui nous impose cette religion de la compétitivité ? Comprenez bien que c'est un choix politique. Un choix politique qui est de nous mettre en compétition toujours plus intense, de manière à nous forcer, justement, à avoir des conduites que nous n'aurions pas, justement, s'il n'y avait pas cette pression absolue et permanente de la concurrence. Et donc, ça entraîne une crise politique. Évidemment, et une régression politique, parce que vous avez des tas de gens qui ne vont plus voter, évidemment, et pour la simple et bonne raison, qui peuvent avoir légitimement le sentiment que ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, regardez, en 30 ans, en France, vous pouvez voter à droite, à gauche, etc. Finalement, est-ce que le système a changé ? Non. Est-ce que l'orientation a changé ? Non. Est-ce qu'on est venu à bout des fléaux sociaux qui accablent ce pays ? Non. Donc, il y a de l'alternance politique, mais il n'y a pas d'alternative. Donc une vraie crise du politique. Et en plus, là on voit que ça va loin, aussi une bonne raison de ne pas aller voter, c'est qu'en plus de toute façon, quand vous votez, et même quand vous obtenez un résultat tonitruant comme celui qui a été obtenu en France par ceux qui se sont mobilisés contre le traité constitutionnel européen en 2005, eh bien vous avez un pouvoir qui fait comme si ça n'avait pas existé, c'est-à-dire qu'il s'assoit dessus sans que ça choque personne, sans qu'il y ait d'émeute, sans que les grands éditorialistes de tous les médias ne s'étranglent dans leurs éditoriaux en hurlant à la mort de la démocratie. Non, on peut faire comme si ceci n'avait pas existé. Donc comprenez bien, c'est que c'est la démocratie aussi qui est en train de reculer. Car vous ne pouvez pas, dans ce système-là, donner réellement un pouvoir aux citoyens. Si les citoyens avaient vraiment le pouvoir, ils changeraient ce système. Quel que soit d'ailleurs, au fond, même leur culture politique, leur préférence politique, etc., l'immense majorité des gens, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, veulent une bonne société. Alors après, chacun après a ses penchants. Il y a des gens qui penchent plus du côté, justement, de la responsabilité individuelle, initiative, d'autres plus du côté du collectif, d'accord, ce qui est légitime. Mais la plupart veulent tous une société qui concilie les deux, bien évidemment. Et donc, si réellement le pouvoir était aux citoyens, et si le pouvoir n'était pas accaparé par des oligarchies qui disent « votez pour nous, mais de toute façon, on fera ce qu'on voudra », c'est-à-dire voter à gauche, voter à droite, mais de toute façon, à l'arrivée, on fera à peu près les mêmes politiques, eh bien, les choses, évidemment, changeraient. Donc, il y a aussi une vraie crise, une vraie régression politique et de la démocratie. Et ça va même bien au-delà et bien plus loin, dans la mesure où cette société étant de plus en plus désordonnée, du fait justement du règne de la rivalité, de l'individualisme, de la compétition, eh bien, comme toujours, la montée du désordre social, la montée de l'incivilité, parce que les gens grandissent dans une société où ils ont le sentiment en fait qu'il n'y a plus justement de véritable collectivité, de véritable société, le grand désordre social provoque la montée des incivilités, la violence, la montée de la violence, le désordre moral d'une jeunesse qui n'a pas grandi et qui n'a plus grandi justement dans une société qui a le sens du primat de l'intérêt général, avec en plus des parents qui ne savent plus enseigner ce primat de l'intérêt général, qui ne savent plus incarner l'autorité légitime, qui savent de moins en moins éduquer leurs enfants, parce qu'eux-mêmes ont grandi, ils ont baigné dans cette culture de l'individu roi, de l'enfant roi, etc., dans ce mépris des règles, de la loi, dans cette culture justement libertaire, individualiste, alors qu'un enfant, pour accéder à la liberté, il a besoin d'avoir des règles claires, des exigences claires, des parents qui ont des exigences, qui attendent quelque chose de lui, qui imposent des règles, mais bien sûr, dans l'affection, dans l'amour et dans la communication. Mais si vous n'avez que l'affection, l'amour, et que vous n'avez pas les règles et les exigences, eh bien vous avez des enfants abandonnés, justement, au vide de l'autonomie, et qui développent l'angoisse, et qui développent soit la dépression, soit la violence. Et donc, là aussi, nous avons un des effets, justement, de cette société moderne, du culte de, la, de l'individu, qui se traduit par ce grand désordre moral. Et donc, face à la montée de tous ces désordres moraux, sociaux, les incivilités, etc., eh bien, on voit peu à peu monter dans les sociétés soi-disant démocratiques, eh bien, la montée à nouveau d'États policiers, d'un retour à l'ordre, à un ordre moral et à un ordre social, mais d'antan. Non, parce qu'il faut de l'ordre moral et il faut de l'ordre social, parce qu'il faut des liens, mais il faut des liens qui libèrent. Voilà, il y a une morale qui peut être libérée, hein, une morale républicaine qui institue le primat de l'intérêt général sur l'intérêt privé, mais dans, un, dans, dans le cadre d'une communauté politique où les gens en décident ensemble. Oui, ça, c'est une morale, mais c'est une morale qui crée de la liberté, qui rend la liberté possible. Hein, les règles, ces règles-là sont des règles qui libèrent, mais ce qu'on voit revenir en force, c'est un ordre moral et un ordre social sécuritaire et répressif. Et c'est bien nécessaire, en réalité, parce que dans des, ces 10 sociétés de rivalité, eh bien, pour contenir en quelque sorte le désordre social, au nom de la soi-disant sécurité, qui d'ailleurs n'avance pas, car les violences continuent de se développer, eh bien, se développent des États qui portent de plus en plus atteinte aux libertés publiques. Pensez aux lois des Patriot Act aux États-Unis, aux lois sécuritaires en France, qui sous prétexte de sécurité portent de plus en plus atteinte aux droits de l'homme, aux droits de l'enfance, aux libertés publiques, et penser aussi au retour en force de l'obscurantisme, en réalité. Car quand vous avez des individus grandis dans une société où il n'y a plus de sens de l'intérêt général, où il n'y a plus de normes qui s'imposent, qui paraissent légitimes, eh bien, pendant un temps, on a été très contents de ça. Les années 80, jusqu'au début des années 90, c'est la grande phase libertaire, c'est bien, bon, voilà. Et puis, il y a un moment, hein, au bout d'une génération, eh bien, vous avez des gens complètement déboussolés qui disent, bah alors finalement, oui, comme disait l'autre, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Bien sûr, les gens ne croient plus en rien. Alors, bon, alors on ne croit plus dans les grandes religions traditionnelles, mais on ne croit plus non plus dans les idéologies politiques qui les avaient remplacées. Hein, ces morales laïques, ces religions laïques qui donnaient du sens, qui créer du lien, on ne croit plus en rien, on a sombré dans le relativisme général, tout se vaut, vous avez, t'as ton opinion, j'ai mon opinion, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Et le problème, c'est qu'au bout d'une génération, ça vous crée des gens complètement déboussolés, et là encore, c'est ce que nous enseigne l'anthropologie, nous avons besoin en nous, pour notre équilibre psychique, hein, de ce que les psys appellent cette place de l'autre, nous avons besoin d'une instance en nous, transcendante, qui incarne justement le fait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui s'impose à nos pulsions, à nos désirs, au nom de l'intérêt général, quelque chose que nous reconnaissons comme une autorité légitime. Nous en avons besoin, voilà, physiquement. Et donc le résultat, c'est que si cette place vient à être évidée par la société et la mutation culturelle, eh bien inévitablement, à un moment ou un autre, elle va à nouveau être remplie par quelque chose. Et donc si le politique ne prend pas le soin de combler cette place de plus en plus vacante, par une vraie morale laïque, républicaine, justement, de la communauté politique, de la solidarité des citoyens et de l'intérêt général, eh bien, cette place vient être occupée par autre chose. Et vous voyez les gens se précipiter, dans le cas les plus bénins, vers des gourous, des coachs, etc. Tout le monde a besoin d'un nouveau maître à penser, mais ils vont aussi beaucoup dans les sectes. Ils se confient beaucoup plus à tel ou tel fanatique religieux. Et vous voyez un retour du religieux et non pas de la religion, car s'il y avait un tour de la religion, après tout, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que la religion, au sens anthropologique du terme, c'est l'alliance qui est soudé entre les hommes, c'est un retour du religieux, mais le religieux sous une forme fanatique, c'est-à-dire où les individus ont absolument besoin de se raccrocher à quelque chose, à une croyance absolue qui détruit tout le reste. Et donc, bon, je m'arrête là parce que sinon je suis trop bavard, mais c'est pour juste vous donner une petite idée en réalité de du mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise économique, etc. Le grand danger serait de croire que finalement, ça n'est que ça. Voilà, que nous sommes juste dans une crise du capitalisme, une de plus, etc. En réalité, et c'est en fait aussi pour ça que j'ai écrit ce livre et que je n'ai pas écrit un livre, même s'il est question de la crise économique, elle est expliquée, c'est une des dimensions du problème. Mais c'est pour dire attention. Sous l'écume des crises, c'est le titre d'ailleurs d'un des chapitres, sous l'écume des crises se cache quelque chose qui est l'engrenage d'une régression générale de notre civilisation moderne qui est partie en marche arrière sur tous les plans de ce qu'avait fait la modernité. Et donc c'est dans une grande régression, pas seulement économique, mais morale, sociale, politique, recul de la démocratie, recul même de l'intelligence, quand vous voyez aujourd'hui que toutes nos élites réunies, que ce soit dans la grande presse ou même chez les grands intellectuels, en étaient encore en 2008 à vanter les lois du marché. Et pour la plupart, après ça, d'ailleurs, n'ont pas changé de religion. Donc ce grand règne de la bêtise chez les intelligents est quelque chose aussi qui est un indice très, très inquiétant, si vous voulez, d'une civilisation en fin de course. Donc c'est ça la grande régression. Et alors, ce n'est pas un message pessimiste, figurez-vous.
C'est ce que je voulais te demander.
Et j'arrête vraiment là. C'est pas un message pessimiste, pourquoi ? Ben, parce que, figurez-vous, comme je ne vous ai pas parlé de ça, c'est la partie, à mon avis, la plus intéressante du livre, mais parce que je montre comment, depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis la formation des premières grandes sociétés humaines, comment ont évolué les formes de société. Depuis des formes justement d'hyper-sociétés traditionnelles, vers le balancement moderne entre dix sociétés et hyper-sociétés libérales ou collectivistes, etc., jusqu'au moment où nous sommes. Et il se trouve que le moment où nous sommes, c'est la fin. C'est la fin d'une époque. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à peu près arrivés au bout de toutes les impasses de cette phase-là. Impasse économique, impasse écologique, impasse sociale. Donc de toute façon, ça ne pourra pas continuer. Bon, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est donc que c'est qu'on sait comment faire autrement. On sait comment faire autrement. Et c'est très facile. Et j'y ai consacré d'ailleurs un autre livre, le précédent, mais qui ressort, je crois qu'on ne le trouve plus maintenant, mais il ressort en février, début février, dans 15 jours, il ressort en poche sous le titre « L'autre société ». Donc là, le titre est explicite, c'est la suite de la dix société. Donc il y avait la mauvaise, il y a la bonne. L'autre société, c'est en poche, c'est pas cher. Donc une fois que vous aurez acheté et lu celui-là, vous pourrez acheter l'autre aussi. L'autre société, où j'explique comment sur des bases anthropologiques solides, etc., on peut refonder tous les principes économiques, politiques d'une autre société. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. Les outils existent. La grande question et la grande incertitude, c'est de savoir si on va pouvoir organiser la transition qui est inévitable, car ce système économique n'est pas tenable. Ce système productiviste n'est pas tenable. Ce système social, cet effondrement moral dans lequel nous sommes, n'est pas soutenable. La question est de savoir, est-ce que nous allons aller vers ce que j'appelle une renaissance, une nouvelle renaissance, qui nous ramènera vers une société de progrès humain ? Est-ce que ça va se faire par une transition démocratique, c'est-à-dire une conjonction de forces sociales qui fait qu'enfin il y a une alternance qui soit une véritable alternative politique, ou est-ce que ça se fera, comme souvent dans l'histoire, à la suite d'un effondrement pur et simple de notre société. Malheureusement, on sait que pour la phase précédente, il a fallu l'effondrement de la civilisation européenne dans le chaos le plus profond pour que la Renaissance soit possible. Alors évidemment, ce n'est pas le scénario rêvé. Je ne fais pas partie de ceux qui espèrent enfin le grand chaos, le grand soir, où ce sera tellement le bordel avec la grève générale, etc., qu'enfin les choses pourront changer, parce que l'histoire nous enseigne que quand les sociétés s'effondrent dans ce type de chaos, ça ne fait jamais le succès du grand socialisme démocratique dont on peut rêver. Ça fait le lit du fascisme, de l'ordre réactionnaire, du totalitarisme, pour des durées indéterminées et donc pour une période absolument épouvantable pour l'humanité. Donc c'est pas ça qu'on peut rêver comme scénario. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un tel événement. Donc la grande incertitude est là, donc il ne nous reste plus qu'à choisir notre camp pour essayer de faire que ça n'arrive pas.
Bien, alors, je voudrais remercier au nom de tous Jacques Généreux pour sa présentation. Et j'ai une remarque et une question. Alors, la remarque, c'est simplement de dire que ce genre d'approche globale, c'est très rare. Parce que chez nous, les enseignants-chercheurs, je suis économiste aussi, c'est interdit de faire ça parce que c'est pas bon pour la carrière. L'économie est devenue une science pure, qui se veut pure, qui doit évacuer toutes les dimensions politiques, sociales, etc. N'est-ce pas ? Et si vous tentez de faire ce genre d'approche, de travail, ben vous êtes sanctionné. Voilà. Donc, je crois qu'il faut
être déjà professeur, en fait.
Voilà. Je pense, oui. À ce moment-là, on peut. Alors, ensuite, j'ai une petite question. C'est que Jacques Généreux nous a dit pourquoi, c'était au début de son intervention, pourquoi les individus acceptent-ils justement cette servitude, hein, en quelque sorte. Alors, moi, j'ai un petit commentaire qui se terminera par une question. Ne serait-ce pas dû à la dette. Est-ce que ce n'est pas l'endettement qui est le moyen, justement, d'asservir les populations et les États ? Et les États qui deviennent, par le biais d'un endettement important, auquel il faut faire face, et donc, pour ce faire, il faut réduire les dépenses de l'État, etc. Est-ce que les États ne deviennent pas des appareils de contrainte ? Ça a été le cas dans les pays du Sud en 1982, à la crise de la dette. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui se passe chez nous dans les pays du Nord. Et notamment, on le voit en Grèce, en Irlande et au Portugal également. Alors, moi, je ne sais pas, devant cette dette qui sert de prétexte justement pour imposer des politiques totalement régressives, que peut-on faire, hein, vis-à-vis de cette dette ? Deuxièmement, toujours concernant la dette, je voudrais simplement dire que la crise de la dette actuelle, la crise financière, a totalement disqualifié les élites politiques qui sont au pouvoir. Je m'explique. On nous a expliqué le marché, c'est bon, etc. Oui, voyez, le marché récompense les courageux et sanctionne les téméraires. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant ? Hein ? Eh bien, le marché n'a pas sanctionné les téméraires. Au contraire, l'État est venu au secours des téméraires, c'est-à-dire au secours de la finance internationale. Voilà.
Oui, si je peux me permettre d'ajouter juste une chose à ta question, parce que c'est la même, avec ce que Jacques Généreux appelle, page 86 de l'ouvrage, j'ai vérifié, le mythe de la disparition des marges de manœuvre. Ça fait partie de la question que tu as posée, ce mythe de la disparition des marges de manœuvre qui permet évidemment d'asseoir la contrainte. Et comme ça, la chose est bouclée.
Qu'est-ce que je réponds tout de suite, là ? Bon, je vais essayer de faire
comme
court.
Comme ça, ils vont réfléchir par ça, là, aux questions qu'ils vont poser.
D'abord, alors, il faut distinguer, parce que la question, il y en avait deux, parce qu'il y a la dimension servitude volontaire des individus et asservissement des nations, des États, notamment à travers de la dette. Ce sont deux questions, évidemment, qui n'ont en fait rien à voir.
Non, mais les individus aussi, par le biais de la dette.
Oui, non, mais justement, pour moi, c'est deux choses tout à fait différentes, parce que pour les individus, je dirais, on sait. Voilà. Et donc ça, j'en ai beaucoup parlé dans la dissociété, en ce qui concerne les individus. Pour les individus, le mécanisme de la servitude volontaire, notamment face à cette dissociété justement de rivalité de compétition, notamment dans l'entreprise par exemple, pas dans toutes les entreprises évidemment, il ne faut pas non plus dramatiser, heureusement il y a encore des entreprises où les gens sont heureux. Mais dans la grande entreprise, en tout cas, dans la grande entreprise internationalisée, en compétition, où les gens sont soumis à l'intensification du travail, à toutes les nouvelles méthodes de management du travail, de stock zéro, flux tendu, etc., exigences permanentes, évaluation individuelle, stressante, on demande aux gens de faire des tas de choses sans qu'ils aient les moyens de les faire, etc. Bon, bref. Donc, il y a cette déshumanisation du travail dans cette situation-là. Alors, on peut dire, les gens, finalement, se révoltent pas. Bon. Alors, là encore, il faut comprendre, justement, ça, c'est là que l'anthropologie et l'approche anthropologique est nécessaire. Évidemment, si on regarde ça d'un point de vue simplement politique ou rationaliste, je veux dire, de façon moderne, alors, on veut dire, on est devant une énigme. On dit, mais comment? Parce que c'est une situation intenable, ils sont plus nombreux. Après tout, les ouvriers dans l'usine, ils sont plus nombreux que le chef, donc ils n'ont qu'à lui faire la pause. Et ben, c'est aussi simple que ça. Que je veux dire. Oui. À ce moment-là, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les êtres humains. Bon. Et donc, d'une part, et ça a été la grande force du néolibéralisme, justement, dans la période de cette grande régression, ça a été d'exploiter... Et c'est la nouvelle manipulation psychologique d'exploiter notre penchant narcissique. Il y a en nous, je l'ai dit, les deux aspirations. Et donc, il y a différents fantasmes. Nous avons un moteur à deux temps. Donc, autant nous pouvons avoir le fantasme de la confusion des sentiments avec les autres, comme on est heureux de tous se tenir en même temps, la même équipe de foot, être heureux de faire une fête avec ses potes, être dans la fusion amoureuse, etc. Bon, on a des fantasmes de fusion avec autrui. Mais on a aussi des fantasmes d'autonomie, des fantasmes d'individu roi. Tout le monde connaît ça, voilà, et à commencer par l'enfant. Je suis le roi du monde, je suis le maître du monde, c'est moi qui fais ma vie, etc. On a aussi ce fantasme narcissique. C'est ça notre moteur, notre double moteur. Justement, nous ne vivons bien et de manière équilibrée, sans sombrer dans la folie, la dépression ou autre chose, que quand nous arrivons à les articuler. C'est à pouvoir finalement jouir de ces deux fantasmes alternativement. Et ce qui nous permet de jouir alternativement de ces deux fantasmes, c'est justement les liens avec les autres et la diversification de ces liens qui nous permettent de jouir à la fois des fantasmes de fusion, mais en même temps du fantasme d'autonomie, parce qu'on s'en libère quand on veut. Parce que comme j'ai tellement d'autres cercles, etc., je suis en fait parfaitement autonome par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, etc., parce que je peux aller ailleurs. Bon. Alors, le problème, c'est que, donc, le néolibéralisme a beaucoup exploité, justement, ce fantasme narcissique, ce fantasme de l'individu roi, dans les nouvelles méthodes de management. Et c'était conforme, en plus, à la culture ambiante, à la montée d'une culture libertaire. Et comprenez bien qu'au début, quand les nouvelles méthodes, d'abord importées du Japon, elles s'appuyaient sur une psychologie de ce type-là, qui était dans les années 70 au Japon, puis après en France, avant même cette grande régression, on ne parlait que d'implication des salariés. Il fallait avoir que tout dépendait du salarié, de son implication, etc. S'il y avait une vraie valorisation de l'individu, mais ça nous fait vachement plaisir, ça, comprenez bien. Et c'est ça la grande force, c'est que dans les nouvelles méthodes de travail, dans ce nouveau fonctionnement du capitalisme, on est passé, comme l'avait montré déjà dans un autre registre le philosophe Michel Foucault, on est passé de la surveillance des corps, qui était la forme ancienne de la domination, le contremaître, le machin, le chef, c'est à la trique, bon, à la surveillance et au contrôle, la manipulation des esprits. C'est la manipulation des esprits psychologiques. S'appuyer, savoir appuyer sur le penchant narcissique de quelqu'un de manière à faire que c'est lui qui maintenant va se sentir mal s'il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'au lieu dans une situation d'exploitation à l'ancienne qui était dure, mais qui psychologiquement était plus facile à supporter. Car l'exploitation du monde ouvrier d'autrefois, c'était brutal. Le capitalisme du 19e siècle, bon, c'était brutal, avec droit de cuissage sur les ouvrières, et je vous en passe, et des meilleurs. Donc c'était brutal, oui. Mais en même temps, cette brutalité-là aussi est ce qui soudait la classe ouvrière, donnait une conscience d'intérêt, et vous aviez une grande fierté, justement, une dignité de la classe ouvrière, et bien du coup, avait un ennemi. Voilà, le patron, le capital, et donc était en lutte et en résistance. Et donc, du coup, c'était brutal, mais psychologiquement, C'est beaucoup plus facile, en quelque sorte, à supporter correctement une injustice contre laquelle vous êtes collectivement en lutte avec des gens, que d'être dans cette situation où, au lieu... Non, maintenant, c'est plus le capitaliste qui vous exploite. C'est vous-même qui vous exploitez. On a réussi à faire des salariés leurs propres auto-exploitants. Car c'est eux qui, maintenant, doivent supporter la charge, le stress, etc., d'avoir réussi pour être à la hauteur. C'est-à-dire qu'on les a tellement manipulés là-dessus qu'après, ils se sentent mal. Pourquoi ? Ils se sentent mal parce qu'ils disent « Merde, le patron est un salaud, je l'exploite, etc. » Ils disent même « Je suis un pauvre type, j'y arrive pas, etc. » Et en plus, à cause de moi, l'atelier d'à côté, parce que j'ai pas fait les trucs à temps, je les ai mis dans la merde, etc. Et donc, à force de responsabiliser comme ça les individus, au lieu d'être dans nos collectifs, quand on a détruit les collectifs, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit à manipuler, à faire que ce sont les gens eux-mêmes qui s'imposent la contrainte. Donc ça, c'est un des mécanismes de la servitude volontaire. Et l'autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est que faut bien comprendre que nous sommes des êtres justement en résilience, c'est-à-dire qu'y avons, pour des raisons simplement de survie psychique, une très forte capacité, on est très doué, pour résister au traumatisme, à la souffrance psychique et éviter justement de sombrer dans le chaos, dans la dépression, dans la grande souffrance. Et donc, bah, y a des écoutilles qui se ferment hein, pour ne pas être inondés par l'angoisse et la souffrance. Nous inventons des tonnes de stratégies, psychiques ou réelles, organisationnelles, pour trouver vivable un monde invivable. Et donc, on le voit très bien dans les entreprises, il y a des enquêtes sociologiques très intéressantes là-dessus. Même dans les pires situations, des trucs épouvantables, etc., ben finalement, les gens se débrouillent pour que ça encore ressemble à quelque chose comme une aventure humaine supportable. Donc, ils inventent des jeux, ils inventent des formes d'autodérision, etc. Ils essaient de réhumaniser un monde qui est devenu inhumain. D'autres se replient, ils arrivent à fermer les trucs, ils disent « Bon, là, je sais que je suis dans le cirque, c'est épouvantable, etc., mais c'est pas grave. » J'y pense pas, etc. Et j'ai mes copains, etc. Et donc, ils se replient sur d'autres sphères. Et donc, heureusement, la plupart d'entre nous, grâce à cette résilience, évitent de souffrir trop. Mais en même temps, il faut bien comprendre que plus on est résilient et plus on arrive à se protéger individuellement contre la souffrance psychique d'une société inhumaine, moins on la combat et moins on résiste contre cette société. Et c'est ce qui m'amène à dire, justement, qu'il n'y a pas de solution par la résistance individuelle. Ce qui manque à tous ces individus, parce qu'on ne peut pas reprocher à des individus de faire ce qu'il faut pour essayer juste de ne pas crever et de ne pas sombrer dans la dépression. Heureusement, encore que les individus sont capables de se protéger pour essayer de ne pas trop souffrir d'une société qui devient de plus en plus inhumaine. Mais ce qui leur manque, c'est un outil politique qui fait que collectivement, par le vote, par un instrument politique, ils peuvent obtenir le changement qu'ils veulent. Bon. Pour la dette pour les États, la dette est une source d'asservissement que pour les petits États, pauvres, dépendants, etc. Et encore, mais il est clair que les plans d'ajustement qui ont été imposés par le FMI dans les années 80-90 à des tas de pays en développement, des pays hypo, là, est un véritable instrument d'asservissement, parce qu'on a des États qui étaient difficilement en situation de résister, d'opposer autre chose, qui étaient dans un état de dépendance, etc. Lorsqu'il s'agit maintenant des pays industrialisés, en particulier ceux de la zone euro, de l'Union européenne, qui étaient évoqués, alors là, pas du tout. La dette publique n'est absolument pas un instrument d'asservissement des États. C'est un instrument, alors c'est peut-être ça que vous vouliez dire, c'est l'instrument qui est exploité par les États eux-mêmes, par les gouvernements eux-mêmes, pour faire croire qu'ils sont soumis à une telle pression qu'on ne peut pas faire autrement que vous imposer un certain nombre de choses. Alors je ne veux pas dire par là que la dette publique n'est pas un problème, mais comprenons bien la nature du problème. C'est-à-dire que la dette publique, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. La dette publique, c'est un truc qui est creusé délibérément par les États, et notamment en Europe depuis 30 ans, qui n'arrête pas de baisser les ressources fiscales, qui n'arrête pas de réduire les ressources sociales, donc de creuser des déficits, pour convaincre les populations européennes qu'elles vivent au-dessus de leurs moyens, que leurs systèmes sociaux ne sont plus finançables, etc. Et donc à force, évidemment, pendant 30 ans d'avoir entendu dire, comme moi je l'ai entendu, qu'il y avait toujours des déficits de ceci, des déficits de cela, on finit par se dire, bah oui, c'est vrai, autrefois c'était peut-être possible, maintenant c'est plus possible. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale. C'est faux. Si l'État payait tout ce qu'il doit à la sécurité sociale, la sécurité sociale serait excédentaire. Exactement. Donc il n'y a pas de déficit public non plus. Le déficit public, c'est une invention.
La Cour des comptes, hein, qui est sérieuse, quand même, la Cour des comptes nous dit qu'il y a en France, seulement en France, 156 milliards par an de dépenses fiscales. C'est-à-dire d'exonération, de niche, de machin, etc. Que en fait, l'ensemble des trucs par lesquels l'État renonce à zéro. 156 milliards. Bon, vous n'avez qu'à pas y renoncer, à les récupérer. Et vous n'avez pas de déficit. Donc les dettes, d'abord, sont creusées délibérément et les trous dans les comptes sont creusés délibérément par les États pour imposer aux citoyens des politiques qui n'ont pas, évidemment, leur courage de leur annoncer comme ça, en disant c'est notre modèle idéologique. Donc on ne dit pas aux gens on va privatiser les retraites ou la santé parce que c'est notre modèle de société. Non, on leur dit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc il faut d'abord créer la situation qui permet de croire qu'on ne peut pas faire... autrement. Alors après, autrement, comment on fait face à la dette publique aujourd'hui, notamment pour des États comme la Grèce, etc. Il faut bien comprendre que leur crise de la dette, elle est en partie aussi provoquée par la spéculation, par le fait que l'Europe a décidé elle-même de, non pas de financer en Europe sa propre dette avec l'épargne européenne, avec les moyens monétaires européens, mais de le financer sur le monde entier en ouvrant ses frontières aux capitaux du monde entier, ce qui n'était absolument pas nécessaire, mais ça a été fait délibérément pour mettre les États sous la tutelle des marchés financiers mondiaux. Mais on n'en a absolument pas besoin. L'Europe n'a pas besoin des capitaux étrangers pour financer ses besoins. L'épargne européenne, il suffit largement. Donc là encore, c'est délibérément... qu'on procède de cette manière-là. Et quand vous avez des dettes qui enflent simplement parce que des agences de notation qui ne peuvent absolument pas noter des dettes souveraines, ça n'a aucun sens, dégradent une note, etc., et que vous avez une dette qui gonfle mécaniquement parce qu'on fait payer plus cher de l'argent à un État qui est assez con pour continuer à s'endetter auprès de ces gens-là, au lieu de dire « je vous rembourse plus, je crée ma banque publique et je finance mes besoins publics moi-même », la solution, elle est simple. C'est-à-dire que quand Papandréou est arrivé au pouvoir en Grèce, il n'avait qu'à appliquer son programme et à dire qu'il ne rembourserait pas la dette et que simplement, il commencerait à discuter éventuellement de restructuration et de remboursement partiel de la dette avec les financiers qui accepteraient, un, d'en discuter, et deux, éventuellement, de refinancer s'il en avait besoin. Je vous garantis qu'immédiatement, il serait venu discuter, trop content d'avoir enfin face à un pouvoir politique qui donne un horizon clair et qui dit quelque chose de précis. Autrement dit, tant qu'il n'y a rien, il continue à spéculer.
Et dans ce que tu as dit, on a retrouvé tout de même ce qu'il y avait comme souffle utopique d'une époque qu'on ne peut pas reproduire, mais tu as fait quelques références historiques intéressantes. Là, à la fin, ces références-là me paraissent majeures, et ce n'est pas un hasard si ce livre était en histoire dans le rayon chez Mola. Un livre d'économiste qui était en histoire.
C'est drôle, ça.
Mais il y a un classable. C'était logique.
Il y a un classable parce que c'est de la philosophie, c'est de l'anthropologie, c'est de l'économie, c'est tout.
Donc... Ce qu'on peut quand même puiser dans le passé aussi.
Et c'est, oui, absolument.
En termes d'idées.
Ah ben absolument, voilà. Et je cite cette belle phrase d'un philosophe communiste, d'ailleurs marxiste, hein, qui est Slavoj Žižek, et qui dit « il faut, pour comprendre le nouveau et penser le nouveau, il faut le concevoir et regarder l'avenir à travers le prisme de l'ancien pour comprendre ce qu'il y avait d'éternel dans l'ancien ». Et ça, c'est fondamental. Absolument. Aller vers la nouveauté, c'est pas abolir le passé, hein, c'est regarder et comprendre l'avenir à la lumière de ce qu'il y avait d'éternel dans l'ancien. Il y avait des choses éternelles dans l'ancien depuis toujours.
Je crois que ça, c'est le plus beau mot de la fin. Merci encore.